invite à la prière. Prions, Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, il est dit dans ta parole que c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. À travers l'écoute de ta parole, Seigneur, nous te prions de souffler sur nous afin que la vie divine que tu as placée en nous puisse grandir. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole. Rends-nous sensibles à ce que tu désires nous enseigner ce matin. Nous nous remettons à toi, Seigneur. Nous remettons nos vies entre tes saintes et divines mains. Oui, Dieu notre Père, nous te confions aussi nos enfants, afin que l'écoute de ta parole aussi puisse leur permettre de recevoir la foi dans leur cœur. Selon qu'il est dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui, Seigneur, laisse que l'écoute de ta parole augmente notre foi et permet à nos enfants vraiment de recevoir la foi en Jésus-Christ. Dieu notre Père, merci pour ce privilège, Papa, que nous avons de nous placer devant toi ce matin afin d'écouter ta parole. Parle-nous, Seigneur. Toi qui sais ce dont nous avons besoin, oui Seigneur, parle-nous et qu'à travers l'écoute de ta parole, que les choses changent dans nos vies, que les chaînes tombent, que les délivrances soient constatées. Oui Père, que tout fardeau nous quitte dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Alors pour ce matin, bien-aimés, je vous propose un verset tiré de la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6, et c'est le verset 17. 1 Corinthiens 6, 17, qui nous dit ceci, « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Il s'agit de ce qu'on appelle l'union d'esprit, esprit au pluriel. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est-à-dire qu'il s'agit de deux esprits qui se rencontrent et qui deviennent un seul esprit. Quelques jours donc après l'élévation de Jésus au ciel, le Saint-Esprit est venu sur la terre. Le Saint-Esprit est venu sur la terre pour être avec les croyants et en eux. Le Saint-Esprit a élu domicile dans la vie des croyants. Et il y demeurera, il y restera, il y habitera aussi longtemps que l'assemblée de Dieu, l'Église, sera sur la terre. Alors cette présence, bien-aimée, est un privilège, mais un privilège immense. Mais peut-être dont nous ne saisissons pas toute l'importance. Elle donne à ce qu'on appelle l'époque actuelle son caractère tout à fait particulier, la présence du Saint-Esprit. À cause de la présence du Saint-Esprit sur la terre, frères et sœurs, nous vivons dans une époque tout à fait particulière. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, les versets 7 à 8, il est dit ceci. Or, le ministère de la mort, gravé avec les lettres sur les pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit, ne serait-il pas plus glorieux. La présence et l'action de l'Esprit dans le croyant sont ce qu'on appelle les caractéristiques de la dispensation actuelle qu'elle est appelée par l'apôtre Paul le ministère de l'Esprit. le ministère de l'Esprit. De sorte que nous vivons à l'époque du ministère du Saint-Esprit. Paul le dit en contraste avec la dispensation de la loi qui l'a précédée et qui est appelée le ministère de la mort. L'homme étant ce qu'il est, l'ancienne dispensation ne pouvait être que le ministère de la condamnation, alors que la nouvelle dispensation est le ministère de l'Esprit, c'est-à-dire le ministère de la vie. Le même contraste est exprimé par l'expression très condensée. L'apôtre Paul dit, mais la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. La lettre tue, mais l'Esprit donne la vie. Peu avant sa mort, puis de nouveau après sa résurrection, le Seigneur Jésus avait promis à ses disciples la venue du Saint-Esprit sur la terre. Cette promesse, justement, s'est accomplie le jour de la Pentecôte, 10 jours après l'élévation de Jésus au ciel. Le Saint-Esprit restera toujours avec eux. Le jour de la Pentecôte est le point de départ d'une période caractéristique, celle de l'Assemblée de Dieu, celle de l'Église sur la terre. Et cette période, je disais, se terminera lorsque le Seigneur Jésus reviendra et prendra tous les siens auprès de lui. Vous savez, le rejet et la crucifixion de Christ ont mis fin à la période précédente, celle de la loi dans laquelle Israël était le seul peuple de la terre. Je dis bien le seul peuple auquel Dieu s'était révélé et avait communiqué abondamment ses pensées et ses desseins. Avec ce peuple, Dieu a fait l'épreuve de l'homme. Avec ce peuple, Dieu a fait l'épreuve de l'homme, l'épreuve de la désobéissance de l'homme. Et l'homme, dans son état naturel, a été démontré incapable de faire ce qui plaît à Dieu. L'œuvre de Christ à la croix ayant été accomplie, mais vraiment parfaitement accomplie, le fondement est posé pour que la grâce de Dieu puisse être annoncée à toutes les nations. Le salut par la foi en Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle, bien aimée, est proclamée par la puissance du Saint-Esprit agissant par le moyen des messagers de Christ, les apôtres, selon l'ordre du Seigneur d'après Actes chapitre 1, verset 8. L'évangile a été prêché d'abord à Jérusalem, puis en Samarie, puis parmi les nations. Et la venue du Saint-Esprit sur les croyants a eu lieu successivement, justement, à Jérusalem, en Samarie, et finalement pour s'étendre au-delà. Toutes les bénédictions caractéristiques de la période actuelle résulte donc de la présence de Christ glorifié dans le ciel et de la présence du Saint-Esprit sur la terre. Elles sont d'abord, d'ordre individuel. C'est chacun qui reçoit. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mais ces bénédictions sont aussi d'ordre collectif. C'est l'Église aussi rassemblée qui reçoit les bénédictions de la part de Christ, de la part du Saint-Esprit. Et à travers ce verset 17 tiré de 1 Corinthiens 6, nous allons nous intéresser justement à une bénédiction commune à tous les croyants de l'époque actuelle. Dans ce verset, l'apôtre Paul informe ses lecteurs que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Quel mystère! Tu t'attaches à Jésus et du coup, vous devenez un seul esprit. Voilà une opération humainement impossible. Nous pouvons le constater qu'il ne dit pas une seule âme avec lui, mais un seul esprit. Le Seigneur ressuscité est l'Esprit vivifiant, selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Son union avec le croyant est donc une union avec son esprit. L'âme, qui est ce qu'on appelle le siège de la personnalité, appartient au domaine naturel. Tout ce qu'elle peut être et tout ce qu'elle doit être, c'est un instrument. Un instrument exprimant le fruit de l'union entre le Seigneur et l'homme intérieur. L'homme n'a rien dans son âme qui épargne à la vie du Seigneur. C'est uniquement dans l'esprit qu'une telle union est réalisée. Cette union est une union d'esprit, je disais tout à l'heure, esprit au pluriel, dans laquelle la nature n'a aucune place. Toute action entreprise donc conformément à notre pensée, à notre opinion, à nos sentiments, peut affaiblir l'expérience de cette union. Vous voyez, les choses de même nature s'unissent jusqu'à la perfection. Jésus a dit à Nicodème, tout ce qui est né de la chair est chair. Quand la chair et la chair se rencontrent, ça s'unit. Mais ce qui est né de tout, ce qui est né de l'esprit aussi, est esprit. Donc les choses de la même nature s'unissent à la perfection. Tout ce qui est né de l'esprit est esprit. L'esprit du Seigneur étant pur, le nôtre doit l'être tout autant, en tout cas, si du moins nous voulons être vraiment unis à lui. Si un chrétien, voyez, tient tellement à ses propres idées, qu'il ne veut même pas mettre de côté ses opinions, ses performances, en tout cas, il ne fera pas l'expérience de son union avec le Seigneur. L'union des esprits, bien-aimés, ne souffre et ne doit souffrir d'aucun apport de quoi que ce soit qui vient de l'homme, qui vient de l'âme. En quoi consiste-t-elle, cette union? Elle consiste dans ce que l'apôtre Paul dit, elle consiste dans l'identification avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Si nous sommes devenus une même plante, dit l'apôtre Paul, avec lui, par la conformité de sa mort, évidemment, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Romains chapitre 6, verset 5. Notre union avec Christ, frères et sœurs, est une union avec sa mort et avec sa résurrection. C'est simplement une indication que nous sommes parfaitement un avec lui. En acceptant sa mort comme étant la nôtre, nous qui sommes morts avec lui, nous ressusciterons tous de même. En acceptant par la foi sa résurrection, nous occuperons aussi expérimentalement une position de résurrection. Alors, qui croit réellement qu'il est ressuscité avec Christ? Puisque le Seigneur Jésus a été ressuscité des morts ou d'entre les morts selon l'esprit de sainteté, Romains chapitre 1, verset 4, et qu'il a été rendu vivant quant à l'esprit, selon 1 Pierre chapitre 3, verset 18, nous aussi, frères et sœurs, une fois unis à lui dans sa résurrection, nous sommes en réalité unis à lui en son esprit ressuscité. Désormais, nous sommes morts. Nous sommes morts à tout ce qui touche à notre personne et nous sommes vivants uniquement à l'esprit. Bien-aimés, il faudra la foi pour croire cela. Une fois identifié avec sa mort, nous perdons ce qui en nous est péché. Nous perdons ce qui en nous est simplement naturel. Une fois identifié avec sa résurrection, nous sommes unis. Nous sommes unis à sa vie de résurrection. Donc, avec sa mort, nous perdons. Mais tant mieux, c'est le péché que nous perdons. Tant mieux. Mais avec sa résurrection, nous gagnons. Oui, merci Seigneur, parce qu'avec sa résurrection, nous gagnons la vie divine. Ainsi, notre être intérieur, qui est maintenant uni au Seigneur, devient un seul esprit, dit l'apôtre Paul, avec lui. Vous aussi, vous avez été mis à mort par le corps de Christ pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Romains chapitre 7, versets 4 à 6. Par la mort de Christ, nous lui sommes unis dans sa vie de ressuscité. Frères et sœurs, une telle union nous permet de servir dans la vie nouvelle de l'esprit, libre en tout cas de tout mélange. C'est là que l'on réalise que la croix est vraiment une merveille. La croix est vraiment une merveille. C'est le fondement de tout ce qui est spirituel. La croix, le dessein de la croix et le but de son action, c'est d'unir l'esprit du croyant au Seigneur ressuscité. Un seul esprit. La croix, frères et sœurs, doit se faire donc sentir en profondeur pour débarrasser le chrétien de tout ce qui en lui est naturel et enclin au péché. C'est alors qu'il pourra participer positivement à la vie du Seigneur et ainsi devenir un seul esprit avec lui. Le résultat sera quoi? Le résultat sera servir le Seigneur en nouveauté de vie. Ce qui est naturel, ce qui est du moi, ce qui est de l'âme, n'a plus aucune place dans la marche du chrétien, pas plus que dans ses œuvres. La vie de l'esprit laisse alors partout sa marque. La vie de l'esprit laisse alors partout son empreinte. Et tout dans cette existence donne l'impression de l'abondance que l'esprit répand par son moyen. Ce qui permet de dire, frères et sœurs, que cette vie que nous avons est une vie d'ascension. Oui, une vie d'ascension. C'est une vie qui monte. C'est une vie qui monte sans cesse. Le croyant est uni au Seigneur qui est assis à la droite de Dieu. L'esprit du Seigneur qui est sur le trône répand son flot dans l'esprit du croyant qui est sur la terre. Bon, c'est un être du monde. Ce qui fait que la vie du trône se trouve ainsi vécue sur la terre par les croyants. Puisque Christ est la tête et nous sommes le corps, mais c'est tout à fait logique que la tête et le corps puissent avoir la même vie en partage et vivre aussi, j'allais dire, dans un même lieu. La tête est au ciel, mais le corps aussi, au ciel. Ce sont là, bien aimé, des réalités spirituelles qu'il faut considérer, mais de façon tout à fait spirituelle aussi. Nous sommes assis au ciel, à la gloire de Dieu. Une telle union, frères et sœurs, rend le Seigneur capable de manifester la puissance de sa vie à travers l'esprit du croyant. Voyez, comme un tuyau qui est branché sur une source est capable de diriger cette eau vive, ainsi l'esprit du croyant uni à l'esprit du Seigneur est capable de transmettre la vie. Le Seigneur n'est pas simplement l'esprit, mais il est l'esprit vivifiant. Quand notre esprit est intimement uni à l'esprit vivifiant, il est rempli de vie. Et c'est une vie que rien ne peut limiter. C'est une vie que rien ne peut entraver. Une telle union nous revêt donc de la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Elle nous procure la connaissance de sa volonté et de sa pensée. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Frères et sœurs, une telle union édifie. Une telle union développe en nous la nouvelle création. Grâce, au riche apport de la vitalité et de la nature du Seigneur. Par la mort et par la résurrection, notre esprit s'élève comme le Seigneur a été élevé. Et fait l'expérience, justement, des lieux célestes, ayant mis sous ses pieds tout ce qui est terrestre. Notre homme intérieur occupe ainsi une position d'ascendant, bien au-dessus de tout obstacle et de tout dérangement. Oui, il est continuellement libre et alerte, notre homme intérieur, et peut tout discerner grâce à justement la transparence de sa vision céleste. C'est comme un avion qui veut prendre le train de décollage. Voyez, voilà comment est notre esprit. Pour monter sans cesse comme l'avion, après le décollage, monte. Oui, quelle différence radicale entre cette vie céleste vécue sur la terre et une vie ballottée de côté et d'autre par nos sentiments. Non. Bien-aimés, recevoir la vie de Dieu à la nouvelle naissance, voyez, c'est le point de départ d'une marche chrétienne. Je faisais allusion à un décollage. Oui, recevoir la vie chrétienne, ce n'est qu'un décollage. C'est le point de départ, c'est le minimum qui fait de nous des croyants. Donc, pour ceux qui sont nés de Dieu, là, voyez, la croissance spirituelle est pleine de promesses. La nouvelle naissance, de toute évidence, est le premier pas dans le développement spirituel. C'est le minimum de la vie spirituelle. C'est le fondement sur lequel va maintenant s'édifier toute la vie ultérieure. Bien que la vie reçue, justement, soit parfaite, elle doit encore se développer. Cette vie que Dieu nous donne à travers, elle est parfaite, mais il faut qu'elle se développe. Bien que la vie reçue est parfaite, elle doit encore se développer. Au moment de la nouvelle naissance, la vie ne peut pas avoir atteint sa pleine croissance. Elle est comme un fruit qui vient de se former. La vie est parfaite, mais, voyez, elle n'est pas encore mûre. Elle comporte donc les possibilités infinies de croissance. Et c'est le rôle joué par le Saint-Esprit. Il apporte la nouvelle naissance et il conduit l'homme nouveau-né dans des possibilités toujours élevées. Blanchou est là, elle peut nous en rendre témoignage. Toujours élevées. Lors de la régénération, l'homme devient lié à Dieu par la naissance. Régénération signifie être né de Dieu. De même que notre vie charnelle, notre vie naturelle est née de nos parents, ainsi notre vie spirituelle est née de Dieu. Et le sens du mot naissance, c'est quoi? C'est donner la vie. Quand nous disons que nous sommes nés de Dieu, cela veut dire que nous recevons de lui la vie, la nouvelle vie. Et c'est ce que nous avons reçu, c'est une vie réelle. Frères et sœurs, voyez-vous quelle bénédiction nous apporte le ministère de l'Esprit, contrairement au ministère de la mort, le ministère de l'Esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Il n'est pas dit deux esprits, mais un seul esprit. Puisque dans cette union, il y a un esprit de nature céleste, d'ailleurs qui domine l'Esprit de Christ, et il y a un esprit qui est dominé, donc l'Esprit de l'homme, donc, le côté divin ne peut que l'emporter, l'emporte largement dans cette union, ce qui fait que l'homme rentre dans cette dimension d'union avec l'Esprit de Christ. Et cet homme qui rentre dans cette dimension devient ce que l'apôtre Paul appelle l'homme spirituel. L'homme spirituel, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 2. L'homme devient un homme spirituel, contrairement à l'homme charnel. D'où notre but, en fait, le but de la vie chrétienne, frères et sœurs, c'est d'être un homme spirituel. Et non pas un esprit, attention, d'être un homme spirituel et non pas un esprit. Si nous reconnaissons cette distinction, bien-aimés, nos vies, en quelque sorte, ne deviendront jamais de sèche stature, en quelque sorte. Nous sommes aujourd'hui des êtres humains. Et nous le serons pour l'éternité. Mais le plus grand exploit qu'un être humain puisse réaliser, c'est de se développer pour devenir un homme spirituel. Les anges sont des esprits, les anges. Les anges sont des esprits. Ils n'ont jamais eu un corps comme le nôtre. Les anges sont des esprits. L'homme spirituel conservera son âme et son corps. Autrement, il en sera réduit à n'être qu'un esprit. Non. Ce qu'on entend par homme spirituel, c'est celui-là qui est sous le contrôle de son esprit, qui est l'organe le plus noble de toute la personne. Ne nous trompons pas sur ce point. Un homme spirituel conserve son âme et son corps. Être spirituel ne détruit pas, n'annule pas ses organes, ni leurs fonctions respectives, car ce sont elles qui font de l'homme ce qu'il est. Bien que l'homme spirituel ne vive que de ces organes-là, il ne les a pas annihilés. Au contraire, ils ont été renouvelés par la mort et la résurrection, de sorte qu'ils sont parfaitement unis à l'esprit et sont devenus donc des instruments capables de l'exprimer. Ainsi, tout ce qui est sentiment, intelligence, toutes ces choses, volonté personnelle, tout ce qui est subsistera dans l'homme spirituel, mais seront entièrement assujettis, dominés par les ordres de l'esprit. C'est l'esprit qui dirigera, qui commandera tout. Par la volonté renouvelée, l'esprit exerce maintenant une autorité absolue sur le corps et sur l'âme. Donc, finis les jours où le corps, lui, exerçait la pression sur l'homme intérieur, un homme intérieur faible et démuni. Finis ces jours. L'esprit d'un homme spirituel s'est donc fortifié. L'esprit d'un homme spirituel s'est donc fortifié et le corps est en son pouvoir. Ainsi, l'union d'esprit dont nous venons de parler, frères et sœurs, n'est rien d'autre que la communion de Dieu avec l'homme. Cette communion avec Dieu, et d'ailleurs le culte que l'homme rend à Dieu, dépend donc de l'esprit régénéré de l'homme. Sans cet élément revivifié, Dieu et l'homme sont séparés. Indéfiniment, irrévocablement séparés. Le premier pas de la communion entre Dieu et l'homme doit être cette vivification de l'esprit de l'homme. Il faut que l'homme reçoive l'esprit de Dieu, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans toute sa connaissance, qu'il illumine aussi les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant par la vertu de sa force. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. En réponse à la parole de Dieu, je voudrais qu'on chante comme une prière, hein, notre Père, puis nous aurons un temps de prière libre pour clôturer ce moment. Chantons notre Père qui est aux cieux.
Notre Père qui est
Laisser la prière au Seigneur au moment de la confession.